Radio Solidarité, au cœur de l'action. C'est maintenant, c'est l'instant.
Nous sommes dans le village associatif du festival Les Solidarités et nous avons déjà deux premiers invités qui représentent l'association belgo-palestinienne. Nous avons Sylvie et nous avons Michel. Bonjour à vous deux. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Michel. Alors Sylvie, alors moi j'ai pas l'habitude de présenter des gens parce que qui peut présenter mieux qu'une autre personne, c'est la même personne. Alors Sylvie,
exactement.
Raconte-nous un peu qui tu es.
Alors, mon prénom c'est Sylvie, je suis bénévole à l'association belgo-palestinienne, qui est une association qui existe déjà depuis pas mal d'années, depuis 1975 si je ne m'abuse, et le travail de l'association belgo-palestinienne est de sensibiliser le public au sens large sur la question du droit du peuple palestinien.
Alors, tu nous as amené un invité qui n'était pas prévu et qui est très intéressant, c'est Michel.
Donc je suis moi aussi membre de l'ABP, mais je ne suis pas que membre de l'ABP, je suis aussi membre de l'Union des progressistes juifs de Belgique, l'UPJB, et je suis aussi membre d'une association toute récente qui s'appelle l'Alliance des juifs antisionistes en Belgique, voilà, qui existe que depuis quelques mois, qui s'est déjà manifestée publiquement, mais qui n'existe que depuis quelques mois. Donc ça, je me présente. Je suis aussi l'auteur d'un livre qui est paru en 2023 et qui s'intitule « Palestiniens et Israéliens, dire l'histoire, déconstruire les mythes et les préjugés, entrevoir demain ». C'est un livre d'historien, je suis historien de formation et je suis un prof d'histoire retraité. Voilà.
Voilà, donc on fera le point avec vous de ce qui est la religion juive, un sioniste et un israélien.
D'accord.
C'est des choses différentes, je pense.
Oui, absolument. Je dois faire ça maintenant ?
Non, on le fera dans l'interview. D'accord. On va revenir avec Sylvie. Sylvie, l'actualité aujourd'hui, douloureuse pour la Palestine, douloureuse pour Gaza également. Alors, quel est le travail que vous faites ici, aux Solidarités, mais également toute l'année avec votre association ?
Oui. Alors, comme on le disait, la situation, elle est douloureuse, certainement catastrophique. Et pas que pour Gaza, c'est pour l'humanité. À partir du moment où un génocide est perpétré comme il l'est à Gaza actuellement, ben c'est toute l'humanité qui en subit les affres, qui laisse le champ libre, on va dire, à ce genre de catastrophe. Donc au sein de l'association, nous militons de différentes manières. Le but est de sensibiliser au sens large le public, histoire de porter auprès, que ça soit les citoyens, mais les médias également, les politiques, tous les acteurs d'une société civile, en fait, le message du droit international, du droit à chaque peuple de disposer d'eux-mêmes. Et ça, on le fait de différentes façons. On explique la situation, quelles sont les infractions au droit international. Avec le génocide à Gaza, également, on va parler du droit humanitaire qui est bafoué également.
Tout le monde le sait par les médias, mais qu'est-ce qui se passe réellement à Gaza? Vous avez des contacts réguliers avec des Gazaouis et avec des Palestiniens. Qu'est-ce qui se passe réellement sur place?
Alors sur place, ce sont des bombardements. L'armée israélienne effectue de nombreux bombardements. Il y a au moins déjà 40 000 civils qui ont été tués. Il n'y a pas que des bombardements, il y a tout un système qui est mis en place, contrôle à la fois des approvisionnements alimentaires, des produits de base, il y a tout le système d'eau, d'approvisionnement en eau qui est également bombardé. Donc ce n'est pas uniquement que des bombardements sur des bâtiments et des victimes, mais le tissu est beaucoup plus large et beaucoup plus profond, c'est-à-dire qu'on va également saper tout ce qui est de la nécessité du quotidien pour pouvoir vivre, c'est-à-dire l'alimentation, l'eau, etc.
On peut dire que c'est une manière psychologique d'atteindre la population?
Alors pas que psychologique, psychologique, mais le psychologique joue énormément aussi. Mais par exemple, le non-approvisionnement en eau fait que je pense qu'il y a au moins 90%, plus de 90% maintenant à l'heure actuelle, de l'eau qui est impropre à la consommation, avec des eaux polluées, des quartiers entiers suite aux bombardements, etc., qui sont avec énormément de corps de victimes qui ne sont pas encore retrouvés, parce que les 40 000, c'est les personnes recensées à l'heure actuelle, mais il y a beaucoup de victimes de corps qui ne sont pas encore retrouvées sous les ruines, par exemple. Ce qui propage aussi une certaine pollution des nappes phréatiques, etc. Et donc la propagation de pas mal de maladies. Il y a une recrudescence du choléra, de l'hépatite, ce genre de maladies qui, évidemment, aussi font leur travail morbide.
On parle de ce qui se passe. Comment vous pouvez faire passer le message ici en Belgique de cette situation ?
Alors on essaye par différents moyens donner un peu plus d'informations au public. Alors ça peut être par des mobilisations aussi lors de manifestations où on va effectivement expliquer la situation et pourquoi la nécessité de se mobiliser. Puis il y a les réseaux sociaux aussi qui peuvent jouer là-dessus quand on n'est pas censuré, évidemment. Il y a les médias, des interviews dans certains médias également, des conférences. Certaines personnes écrivent des livres comme Michel qui sont importants pour l'éducation également. Et puis alors, nous éditons par exemple nous aussi une revue, un trimestriel que nous envoyons gratuitement à toute personne qui est intéressée, donc pour pouvoir suivre cette actualité. Alors en plus de ça aussi, on participe comme ici avec la tenue de stands dans des festivals, mais aussi des stands qui sont hors festival, je veux dire, ou dans nos régionales, par exemple, une régionale va demander de pouvoir tenir un stand sur une place publique, par exemple, pour pouvoir informer le public présent.
L'association belgo-palestinienne est une des associations qui a organisé les grandes manifestations qu'il y a eu à Bruxelles, qui a rassemblé à peu près 60 000 personnes pour la plus grande.
Exactement.
Alors, est-ce que c'est facile d'organiser ce genre de manifestation ? Je ne parle pas de l'organisation publique, mais de mobiliser les gens en sachant que malheureusement toute la population ne soutient pas cette idée.
Non, c'est effectivement pas facile, que ça soit au niveau organisationnel pur, c'est beaucoup de choses à faire, mais c'est dans la mobilisation même de différents acteurs, parce qu'il y a eu une grande plateforme qui s'est créée pour pouvoir réaliser tous ensemble ces manifestations, parce que c'est importable par une association toute seule, c'est trop monumental en soi, surtout avec autant de participants, de manifestants. Le plus dur étant, je pense, de pouvoir tous se rassembler sur une même vision et un même credo pour pouvoir
On en parlera tout
cela
à l'heure avec Michel, mais dans une telle manifestation, il y a 50, 60 000 personnes avec des idées différentes, avec des colères différentes également.
Exactement.
Comment on peut gérer pour dire que un sioniste n'est pas un juif ou etc. Comment on peut essayer d'éduquer, faire de l'éducation permanente pour que tout le monde comprenne la réalité?
Alors voilà, ça c'est tout la partie du travail qui est la plus compliquée selon moi, c'est de pouvoir rassembler tous les acteurs et de se centrer sur une position commune. La position commune, je pense, qui est la plus fédératrice, et de se limiter à tout ce qui est le respect du droit, le droit international, qui est une boussole, et ce sont des éléments fédérateurs pour en tout cas les associations et tous les acteurs présents dans cette mobilisation, que ça soit notre association, d'autres associations ou l'UPJB ou Michel, dans laquelle Michel participe aussi, ben c'est de trouver ce moyen-là qui est, ben voilà, c'est quelque chose de figé aussi, de noir sur blanc, le droit international. Ce sont des écrits, les conventions, etc. Ben voilà, je pense que c'est la boussole qu'on doit tous garder en ligne de mire pour pouvoir se centrer et avancer collégialement.
Alors, tu parles de droit international. Quels sont les droits qui sont bafoués? On parle d'apartheid, on parle de camps de concentration à ciel ouvert, etc. Quels sont les droits qui sont bafoués en faveur des Palestiniens?
Alors, il y en a beaucoup. Hein. Je pourrais faire une longue liste, mais il y a eu plusieurs résolutions, notamment de l'ONU, notamment par exemple sur la construction du mur, qui est illégale, puisqu'il ne respecte pas déjà le traché de 67. Et donc, c'est pour ça l'importance des mots, et qui n'est pas, à notre sens, un mur de séparation, puisqu'il n'est pas, il ne respecte pas une frontière qui a été établie, et est un mur d'annexion. Donc, qui dit annexion, dit prise de terres supplémentaires, qui sont des terres du peuple palestinien. Il y a l'autodétermination des peuples, le droit de retour des Palestiniens. Dans le droit international, il y a la résolution 194 qui parle du droit de retour des Palestiniens, qui n'est absolument pas respecté, évidemment, par Israël. Les colonies, qui sont illégales aussi. Etc. D'ailleurs, il y a la Cour internationale de justice qui a rendu un avis très récemment sur notamment les colonies, en disant que non seulement elles étaient illégales, mais qu'elles devaient être démantelées le plus rapidement possible. Évidemment, il n'y a pas encore de prise de position pour que ces colonies soient démantelées dans un avenir proche. Au contraire, la guerre se perpétue et le génocide à Gaza également. Mais en plus de cet avis sur l'illégalité des colonies, ce qui est important aussi là-dedans est de dire que les États membres sont aussi responsables et redevables de contraindre Israël et de ne pas participer à la poursuite, à la pérennisation de ces colonies. Donc les États membres ont une responsabilité et un devoir également.
D'accord. On va passer chez Michel, qui a beaucoup de choses à dire, je l'ai vu, et on reviendra vers toi pour parler de ce que nous, on peut faire ici en Belgique pour soutenir le peuple palestinien. Michel.
Est-ce que je peux d'abord compléter sur les activités de l'association belgo-palestinienne?
Bien sûr.
Parce qu'en fait, l'association belgo-palestinienne fait aussi tout un travail de lobbying. Donc, on essaie d'influencer les politiques. Très régulièrement, on les rencontre, on fait des mémorandums, etc. On fait aussi tout un travail de formation par des conférences, par des journées de formation, etc. Justement pour aller contre les idées dominantes concernant le conflit israélo-palestinien qui sont très influencées par le discours officiel israélien ou pro-israélien. Et puis on organise des voyages aussi. Bon, pour le moment, on organise des voyages. C'est très important parce que aller se rendre compte sur place, c'est tout à fait autre chose que lire des livres, lire des articles hein, ou avoir une conférence. Voilà. Voilà, il y a tout ça en fait. En fait, la BEP a énormément d'activités différentes et tout ça se complète. Voilà, cette année, on était fort occupé sur les mobilisations de rue, mais en fait, on fait beaucoup d'autres choses aussi. Mais il y avait une autre question.
Oui, bon, on va continuer notre rencontre. Alors, on entend dans le public, dans les gens, très peu dans les médias, qu'un juif n'est pas un sioniste, qu'un Israélien n'est pas forcément un juif. C'est quoi un peu cet amalgame qu'on fait avec des noms et avec des positions et avec des idées politiques mélangées avec des idées religieuses?
Alors il faut savoir à qui le crime profite. Hein. Il faut savoir à qui le crime profite. Les Israéliens, enfin les dirigeants israéliens et ceux qui le soutiennent à l'étranger font tout pour amalgamer sionisme et judaïsme. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Le sionisme est un projet politique hein, qui est né en tant que projet politique à la fin du 19e siècle et qui avait pour but de créer un État réservé aux Juifs en Palestine. Au départ, c'était même pas en Palestine, mais finalement en Palestine. Et le problème, c'est la manière dont ça s'est concrétisé. Ça s'est concrétisé aux dépens du peuple palestinien. L'essentiel du livre que j'ai écrit, c'est là-dessus. C'est sur les conséquences pour les Palestiniens de la concrétisation du projet sioniste. Pas d'un sionisme théorique, mais du sionisme réel, quoi. Et ce qu'on fait au nom du sionisme. Donc, c'est-à-dire au nom de cette soi-disant nécessité de créer un État refuge pour les Juifs. Je dis soi-disant parce que je pense qu'Israël est certainement l'endroit du monde où les Juifs sont le moins en sécurité, hein, où ils meurent le plus de morts violentes. et c'est simplement lié au fait que les Palestiniens n'acceptent pas l'état dans lequel on veut les mettre, c'est-à-dire de coloniser, d'occuper, de victimes d'oppression ou victimes de discrimination s'ils sont citoyens israéliens. Voilà. Ils ont toujours résisté et résisteront toujours comme toute personne et comme tout peuple normalement constitué. Donc pour moi, si on veut sortir de l'impasse dans laquelle on est, il faut sortir du sionisme. Il faut remettre en question le fait qu'Israël soit un État juif dont la constitution même, enfin il n'y a pas de constitution, mais les lois fondamentales disent que c'est un État, c'est l'État-nation du peuple juif et d'aucun autre peuple. Or, rien qu'en Israël même, donc je ne parle pas des territoires occupés, il y a 30% de la population qui ne sont pas juifs, dont plus de 20% de Palestiniens.
Avant justement la création de l'État d'Israël, il y avait bien sûr des juifs sur le territoire de la Palestine, ou la Cisjordanie, mais est-ce que les peuples vivaient ensemble sans problème?
Alors, je vais remonter un peu plus loin dans le temps. Au moment où les premiers sionistes arrivent, c'est-à-dire le dernier quart du 19e siècle, il y a en Palestine environ 500 000 habitants, et si on les classe par religion, il y a environ 85% de musulmans, 10% de chrétiens et 5% de juifs. Ces juifs ne viennent pas d'ailleurs, ils sont établis là depuis des siècles, voire plus. Ils parlent arabe, ils ont simplement une religion différente des autres. Ils ne vivent pas séparés des autres, il n'y a pas de conflit majeur, par des conflits de voisinage, voilà. Mais comme tout le monde, quoi, voilà. Et le problème se pose à partir du moment où arrivent ces sionistes qui viennent pour la plupart d'Europe et qui veulent créer une société à part, tout de suite. Donc ils vont réunir de l'argent pour acheter des terres. Ils vont pour la plupart exiger que dans les contrats de vente, il soit précisé que la terre soit livrée libre d'habitants, c'est-à-dire sans habitants. Autrement dit, les paysans sans terre qui travaillaient sur ces terres, soit en tant qu'ouvriers agricoles, soit en tant que métayers, sont chassés et perdent leur job. Donc ça crée très vite des tensions. En plus, ça fait augmenter le prix de la terre, parce que les capitaux vont progressivement affluer pour acheter de la terre. Donc, même les paysans propriétaires qui voudraient agrandir leur terrain ont aussi des tensions avec ces sionistes qui arrivent. Mais le problème fondamental, c'est la création d'une société séparée qui commence très tôt, hein, qui commence très tôt au début du XXe siècle. Il y a déjà des morts dans des conflits entre juifs sionistes et palestiniens. Il y a déjà des morts avant la Première Guerre mondiale, il faut savoir ça. Alors je saute dans le temps. Au moment du plan de partage de la Palestine, c'est-à-dire en 1947, il y a à ce moment-là environ 1 300 000 habitants sur tout le territoire de la Palestine, parmi lesquels moins d'un tiers de juifs. Donc déjà, ils sont beaucoup plus nombreux qu'avant, mais ils ne sont encore qu'au moins d'un tiers. Le plan de partage va leur attribuer 55% du territoire. Donc déjà il y a un partage inégal au niveau des terres, mais on pourrait discuter de la qualité des terres, etc. Mais surtout l'État juif entre guillemets, puisque c'est la terminologie des Nations Unies à l'époque, il y a près de 45% de Palestiniens. Donc c'est tout de suite un problème pour l'État juif, puisque dans quelques années les Arabes qui font plus d'enfants seront majoritaires. La solution, ça a été, grâce à la guerre civile et puis la guerre tout court avec les pays autour, d'organiser l'expulsion des Palestiniens. Ce qui fait qu'au lendemain de ce qu'on appelait la première guerre israélo-arabe, c'est-à-dire en 1949, il n'y a plus dans l'État d'Israël, qui à ce moment-là occupe 78% de la Palestine, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qui était prévu par le plan de partage, dans ce territoire-là, il n'y a plus que 17% de Palestiniens. Donc les Israéliens ont gagné, enfin les sionistes ont gagné la bataille démographique. Et ils vont continuer cette bataille démographique tout le temps, y compris quand ils auront conquis des territoires où il y a beaucoup de Palestiniens, comme la Cisjordanie, Jérusalem-Est ou Gaza. Et actuellement, ils sont en train de la perdre, la bataille démographique. Parce que les Palestiniens, sur tout le territoire contrôlé par Israël, c'est-à-dire toute la Palestine plus le Golan, ils redeviennent majoritaires. Donc gros problème du point de vue sioniste. Pas du point de vue humain, hein, du point de vue sioniste. Voilà, je sais pas, je laisse ces questions venir.
Non, pour moi c'est très bien parce qu'on éclaircit les choses, on parle vraiment...
J'aurais bien dit quelque chose aussi sur l'histoire de Gaza avant le 7 octobre, parce qu'on a parlé de ce qui se passe depuis, mais il faut savoir que la situation à Gaza était catastrophique depuis très longtemps.
Oui, avec salaison des eaux, des nappes phréatiques, etc.
C'est ça. Donc en fait, Gaza était déjà un territoire absolument déshérité, sous un blocus extrêmement sévère depuis des dizaines d'années, mais surtout depuis 2007, avec effectivement très peu d'eau potable, très peu d'électricité, énormément de coupures, tout à fait déficient au niveau sanitaire, parce qu'au niveau des médicaments, au niveau du personnel médical, au niveau des infrastructures, des appareils médicaux, etc. Donc, il y a eu un rapport de l'ONU en 2012 qui disait que si la situation continue comme ça, c'est-à-dire si le blocus continue de la même manière, en 2019, la vie serait devenue impossible à Gaza. En 2017, il y a eu un autre rapport de l'ONU qui disait que la vie est déjà impossible à Gaza. Et donc l'attaque du Hamas et de ses alliés le 7 octobre ne sort pas de nulle part. Elle sort d'une situation complètement désespérée, avec aucune perspective d'avenir, d'autant plus après l'arrivée au pouvoir du gouvernement actuel en Israël, qui est arrivé au pouvoir en décembre 2022 et qui est un gouvernement d'extrême droite, avec une droite messianiste au pouvoir, ce qui n'avait pas été le cas avant, qui ont des postes très importants et qui disent aux Palestiniens, soit vous vous soumettez à nos conditions, soit vous partez. Voilà. Donc c'est dans un climat de désespoir, de révolte désespérée qu'a eu lieu cette attaque, dont on pourrait parler si ça vous intéresse.
Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais on va envisager dans le futur d'avoir peut-être une journée spéciale Palestine en association avec notre radio et votre association. Sylvie,
Est-ce que je pouvais juste rebondir un petit peu sur ce que Michel a dit effectivement, la situation était déjà catastrophique avant, et j'aimerais bien aussi parler un petit peu de la Cisjordanie, parce qu'on parle beaucoup de Gaza à juste titre évidemment à l'heure actuelle, mais la situation en Cisjordanie était déjà très mauvaise avant et l'est encore plus actuellement, où le système d'oppression se fait différemment et par d'autres moyens, mais c'est le cas également. En Cisjordanie, il y a aussi toute l'affectation des nappes phréatiques et de l'accès à l'eau, hein, et ça depuis très longtemps. Ce que l'on voit de plus en plus à l'heure actuelle comparé aux années précédentes, c'est les attaques extrêmement violentes et meurtrières des colons, qui ont été, il y a quelques mois, encore plus armés, fournis en armes par l'armée israélienne, et qui ont le droit de faire tirer ce qu'ils veulent.
Le permis de tuer.
Tout est permis, effectivement.
Alors, aujourd'hui, en Belgique, qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir la Palestine ? Quels sont les différents moyens ?
Alors, il y a beaucoup de choses à faire, évidemment. Alors, pour partir du plus simple au plus compliqué, je vais dire, mais la première chose est de toujours parler de la Palestine. Ça, c'est aussi beaucoup de nos partenaires, des Palestiniens, une demande, c'est continuer à parler de la Palestine, à parler de nous, à parler de ce qui se passe, qu'on ne tombe pas dans l'oubli.
Donc, tant qu'on parlera de la Palestine, voilà, ils seront toujours présents.
Et ça, tout un chacun peut le faire, dans n'importe quel contexte, chez soi, en famille, en public, dans les magasins, dans la rue, tout le monde, sur les réseaux sociaux. Au plus on en parle, au plus on peut mettre de la pression de cette façon-là. De la pression sur nos gouvernements. C'est une façon de mettre la pression sur nos gouvernements, de savoir que l'opinion publique ici est dans le respect du droit du peuple palestinien. Également, ça se fait dans les manifestations, venir aux manifestations. En plus, on est présent en manifestation, en plus, ça met aussi de la pression sur nos politiques et ça envoie un message qu'on reçoit en retour de nos amis palestiniens et de nos partenaires palestiniens, de dire ça nous rassure de voir autant de gens qui vont en manifestation. Donc ça, c'est des premières choses que tout le monde, qui est accessible à tout le monde. Après, on peut aussi interpeller nos politiques, nos communes, nos bourgmestres, etc., ou des institutions, diverses institutions publiques, mais aussi des compagnies, des sociétés en fait marchandes, etc., de mettre la pression pour ne pas investir ou en tout cas soutenir financièrement d'autres sociétés qui investissent par exemple dans les colonies, etc.
Là on parle de boycott.
Alors là, oui, on arrive au boycott. Alors le boycott, il a différentes formes. Hein. Tout un chacun peut déjà choisir ce qu'il consomme. Donc c'est déjà une approche plus facile du boycott, c'est de choisir ce qu'on achète et de ne pas acheter ce qui est, par exemple, issu des produits des colonies ou tout ce qui n'est pas éthiquement fait. Et ça, c'est au sens général. Le boycott est aussi le boycott académique ou culturel. Donc ça aussi, on peut tout un chacun le faire plus facilement. Et puis alors, il y a aussi tout le boycott, le désinvestissement. Alors, le désinvestissement, ben là, c'est mettre de la pression sur des compagnies, par exemple bancaires ou d'assurance, pour qu'ils ne participent pas à des investissements, soit en direct, soit via d'autres sociétés qui soutiennent financièrement. Et on peut se targuer aussi tout en chacun des victoires du boycott. J'ai un exemple, je ne citerai pas le nom, mais il y a une institution
bancaire,
d'assurance, oui. D'assurance qui, pendant plus de 10 ans, on a mené de front un boycott assez prononcé, assez soutenu, qui a fini par payer, puisque maintenant, cette compagnie d'assurance s'est désinvestie des soutiens qu'elle donnait à d'autres entreprises.
D'accord. Alors, avant de clôturer notre entretien, on va parler d'un symbole, qui, depuis le 7 octobre, on voit partout, c'est la pastèque. Pourquoi ? Oui.
Alors la pastèque, si vous voyez la pastèque, quand elle est coupée en tranches, elle a toutes les couleurs de la Palestine. Le rouge, le noir, le blanc et le vert. Alors pourquoi ce symbole a été utilisé? Il faut savoir que en 1967, le drapeau palestinien avait été interdit. Et donc du coup, il n'avait plus d'icônes ou d'effigies au peuple palestinien. On a dénaturé un petit peu cette partie-là. Et du coup, par exemple, pendant la première intifada, comme ils ne pouvaient pas utiliser le drapeau palestinien puisqu'il était, il y avait des répressions sévères, ils ont utilisé le symbole de la pastèque en disant « ce n'est pas le drapeau, mais ce sont les couleurs. » Alors, c'est très chouette de l'utiliser également. Il faut cependant faire attention de ne pas remplacer le drapeau palestinien par la pastèque, parce que le symbole de la Palestine, c'est quand même son drapeau. Chaque pays, chaque nation a son drapeau, donc il ne s'agirait pas d'effacer non plus le drapeau palestinien.
Alors, la dernière question, comment on peut contacter l'association belgo-palestinienne?
Alors tout simplement, on a un site internet qui s'appelle Association belgo-palestinienne avec un petit trait d'union entre belgo et palestinienne.
.be,
exactement. Et alors nous sommes sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook, sur X et sur Instagram. Et alors nous avons une adresse mail générique, je vais dire, sur laquelle vous pouvez écrire en posant toutes vos questions. Et l'adresse est info@abp-wb pour Wallonie-Bruxelles. .be, parce que nous sommes présents sur la francophonie belge, donc Bruxelles et la Wallonie.
En tout cas, Sylvie, merci de nous avoir accueillis dans ton stage.
Merci à vous.
Nous, on va continuer notre petite route. Merci, Michel, d'avoir pris de ton temps pour venir discuter avec nous sur des sujets durs, mais intéressants. Et je pense qu'on va rester en contact pour organiser ensemble une rencontre, une journée spéciale, sans aucun problème.
Merci pour l'invitation.
Voilà, merci à vous deux. Nous, chers auditeurs, on va continuer notre petite promenade dans les solidarités. Et nous allons continuer. Alors maintenant, nous allons continuer notre petit périple dans une association qui s'appelle Impasse dans l'impasse. Et nous allons avancer. Donc voilà. Ok, voilà, on avance, on est dans les allées du village associatif des solidarités à Namur. Donc voilà, on se promène, on va à notre rendez-vous qui est prévu dans quelques minutes, hein, le temps d'arriver, quelques secondes. Donc c'est Impasse dans l'impasse. Alors moi je vous invite d'écouter une chanson que Radio Solidarité a écrite pour Gaza. Voilà, pour la Palestine, et nous allons écouter une chanson des enfants de Gaza. Voilà, je cherche dans ma playlist la bonne chanson, et on va, voilà, vous entendez également l'ambiance qu'il y a ici chez nous, ici sur le site de Ecolis. Ici au festival Les Solidarités. Alors on va mettre un petit peu de musique et on se retrouve juste après cette musique. Je suis en train de la chercher, en fait je suis en direct, je cherche après cette chanson que je ne trouve pas. Voilà, donc je tourne dans ma playlist. Je ne la trouve pas sous la main, mais je vais en mettre une autre. On va remettre une interprétation de Rudyard Kipling, qui est « Si » du fameux poème « Is ». Si tu peux voir détruit l'ombrage de ta vie et sentir un seul mot te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le garde sans partie, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des queues pour exciter des sots et t'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties. Sans un geste et sans un soupir. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun de soit tout pour toi. Tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur. Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître. Penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire, eux, seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire, eux, seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils.
Soutenez notre web radio et devenez un ami solidaire. www.solidarité.tv.
Dieu, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils.
Alors, nous sommes avec... Voilà, nous sommes avec Élise Ridel, qui représente Impasse dans l'impasse. Bonjour Élise.
Bonjour.
Alors Élise, Impasse dans l'impasse, ça représente quoi ?
Oui, Impasse dans l'impasse, c'est une association, c'est l'unique centre de prévention du suicide en Wallonie. Nous proposons des activités de prévention et des activités d'accompagnement. Dans nos activités d'accompagnement, ça va être principalement des consultations psychologiques, des consultations pour des personnes qui ont des idées suicidaires, pour leurs proches, donc leur entourage, mais également pour les personnes qui sont endeuillées par suicide. Alors, nous consultons dans 9 antennes en Wallonie, un petit peu partout. Nous proposons des consultations individuelles ou des consultations de groupe. Dans nos activités de prévention, nous avons notamment un dispositif de sentinelle en prévention du suicide que nous avons mis en place, qui est en fait l'idée de mobiliser tout citoyen, volontaire, bénévole, à devenir une sentinelle en prévention du suicide et donc un relais, un lanceur d'alerte qui va passer la main entre une personne qui ne va pas bien et pour qui c'est compliqué de mettre en place une démarche de demande d'aide vers nos services, et ce au départ d'une alerte. Donc si vous allez sur notre site internet www.1-passe.be, vous verrez qu'il y a un bouton rouge pour nous alerter et lancer une alerte auprès de nos services. Nous, dès qu'on la reçoit, on prend contact avec la personne dans les 24 heures jour ouvrable, on fait un premier bilan pour évaluer la situation et on l'oriente de la manière la plus adéquate possible, soit une prise en charge psychologique dans un de nos services ou envers un autre organisme si besoin est.
Alors, comment des proches peuvent justement se rendre compte d'un problème d'un membre de leur famille qui aurait des idées suicidaires, de passer ou pas à l'action, etc. Comment un peu les proches peuvent être attentifs au problème ?
Oui. Alors, par rapport à cela, il existe différents signaux d'alerte qui peuvent entrer en jeu. Ils sont de différents types. Nous les développons d'ailleurs dans notre sensibilisation gratuite qui peut être dispensée en ligne pour devenir une sentinelle en prévention du suicide. Mais de manière générale, ce que nous conseillons, c'est de ne pas avoir peur d'en parler et de mettre en place un espace de parole bienveillant avec leurs proches et de poser la question « Tu ne vas pas bien ? À quel point tu ne vas pas bien ? Est-ce que c'est au point de mettre fin à tes jours ?» Il faut savoir qu'il existe un mythe autour du suicide où l'idée est « Ben voilà, si j'en parle, peut-être que je vais donner des idées. » Ce n'est pas vrai. C'est un mythe, mais c'est important de pouvoir poser la question, ça va légitimer la personne vis-à-vis de sa souffrance, elle va pouvoir, je veux dire, la déposer ici.
Alors, un autre mythe, quand quelqu'un parle de suicider, c'est qu'il ne va pas le faire. Justement, quel est ce rapport à ça ?
Effectivement, c'est un mythe, donc ça n'a strictement rien à voir. Il est très bien possible qu'une personne dise qu'elle va mettre fin à ses jours et qu'elle ne le fasse pas comme elle le fasse. Le fait est que dès que quelqu'un dit, en tout cas, à ce point qu'elle ne va pas bien, ce n'est jamais à minimiser, c'est bien qu'il existe une souffrance et elle est après à prendre évidemment en considération et à évaluer par un professionnel.
Alors, est-ce qu'on a des chiffres en Belgique, ou en tout cas en Wallonie et à Bruxelles, de personnes qui se suicident ?
Oui, alors il faut savoir que par rapport aux chiffres, les données statistiques officielles, on a toujours un recul de 3 années pour avoir des données qui vont être officielles, qui vont être validées. Donc ici, par exemple, on a les dernières données qui vont dater de 2021. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on va avoir un taux qui est stable. On va entre 2020-2021. En tout cas, le suicide est plus ou moins stable, mais en tout cas, il ne diminue pas non plus. Et on voit que ça va être la première cause de décès chez les 14-45 ans.
Donc,
un accident, une maladie, ce genre de choses.
Donc, le suicide existe aussi et bien prononcé chez des adolescents.
Tout à fait, tout à fait. Il est bien présent chez les adolescents.
Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aider ces jeunes, et 40 ans, on est encore jeune aussi, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours pour aider ces gens ?
Nous ici, voilà, comme je vous le disais, ce qu'on propose vraiment, c'est l'action de mobilisation citoyenne. Ça va être de mobiliser les citoyens, notamment au travers du fait de devenir une sentinelle. Donc ça va être se sensibiliser à la thématique, ça va être se renseigner vis-à-vis au tabou pour pouvoir après poser la question à la personne et l'orienter vers les structures adéquates.
Alors comment ça se passe justement chez vous quand on arrive dans une de vos associations hein, partout en Wallonie avec quelqu'un qui veut se suicider, quelqu'un qui va pas bien, des assistants sociaux, des psychologues, des psychiatres? Qu'est-ce que vous mettez en place?
Oui. Alors c'est une seule et même association, mais avec 9 antennes de consultation. Donc c'est-à-dire qu'nous avons un numéro unique, le 081 777 150. Et avec ce numéro, vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation un peu partout en Wallonie. Alors comment ça se passe? D'abord, il y a toujours une prise préalable de rendez-vous qui peut se faire par la personne elle-même ou par un tiers, mais avec l'accord de cette personne. Ensuite, la personne vient dans l'antenne de consultation où elle a pris son rendez-vous. Elle est reçue par un psychologue. Et puis là, l'entretien se passe, bien évidemment. Et il faut savoir que dans notre équipe, donc, nous avons des psychologues, nous avons un psychiatre et nous avons aussi un assistant social qui, si la personne le souhaite, peut la recevoir pour effectuer des démarches sociales si aussi elle en a besoin.
Voilà, donc vraiment une prise en charge complète pour les personnes en détresse. Mais pas que, il y a également les prises en charge de familles endeuillées par un suicide, etc. Pour une famille endeuillée, comment ça se passe l'approche?
Oui, eh bien, de manière plus ou moins similaire. Hein, donc, ça peut être des consultations soit de groupe où plusieurs membres de la famille viennent ensemble ou les membres viennent de manière séparée. À nouveau, dans une de nos antennes de consultation avec un rendez-vous qui est préalable à cela. Le psychologue reçoit la famille ou la personne endeuillée. Une consultation psychologique se passe et à nouveau, je vais dire, c'est le même style de démarche.
Alors, quels sont les reproches que les familles se font après un suicide? Quels sont un peu...
C'est beaucoup de la culpabilité, hein. De la culpabilité et des questionnements, je dirais, parce que d'une part, ils s'en veulent de ne rien avoir vu et d'un autre côté... Ils se questionnent, ils se disent, mais enfin, on n'a rien vu, elle ne nous a rien montré. Et c'est là que c'est difficile parce que, évidemment, l'idée est de ne culpabiliser personne. Mais toujours, je dirais, il existe un signal même infime de la détresse de la personne.
Et quel genre de signal, peut-être minime, qu'on peut voir?
Il y a des signaux qui vont être flagrants dans un changement de comportement qui va être important, quelqu'un qui va énormément s'isoler, qui va se replier sur elle, mais toujours on dira que c'est multifactoriel. Le suicide est un phénomène multifactoriel, donc c'est plusieurs facteurs qui vont intervenir et c'est au cas par cas. C'est ce qui rend la situation davantage compliquée aussi, bien évidemment.
Alors, est-ce qu'on arrive pour une famille à se remettre d'un deuil, d'un suicide?
Alors, à nouveau, c'est au cas par cas, ça dépend de chaque personne, ça dépend, je vais dire, de comment est vécu le deuil par la personne, ça dépend de l'accompagnement, est-ce qu'il y a un accompagnement, est-ce qu'il n'y en a pas, bien évidemment, c'est plus facile de se remettre d'un deuil traumatique quand il y a un accompagnement, quand les personnes sont suivies, voilà.
Alors, on a parlé ici des différents... problématique du suicide, mais vous faites également de la prévention.
Oui, tout à fait. Et dans nos activités de prévention, c'est comme je vous disais, notamment le dispositif Sentinelle en prévention du suicide, où on prévoit sur notre site internet des sensibilisations déjà, je vais dire, en avance, mais on peut aussi se rendre dans différentes institutions qui souhaiteraient être sensibilisées. On fait des enquêtes de terrain, nous essayons d'être présents pour en parler à certains événements, notamment ce genre de choses.
Alors, un sentinelle, c'est quelqu'un qui est proche d'une personne qui veut se suicider ou ça peut être monsieur et madame tout le monde qui est sensibilisé par le problème du suicide?
Ça peut être monsieur et madame tout le monde qui est sensibilisé par le problème. Et voilà, comme on le rappelle, il n'y a pas de poids particulier ou d'engagement particulier à devenir une sentinelle. Voilà, la personne doit bien se rendre compte de ses limites et c'est déjà... énorme de se sensibiliser à la thématique. Il faut bien éviter tous les rôles de sauveur et ce genre de choses. Voilà, c'est n'importe qui est volontaire, bénévole et qui se sensibilise et qui un jour dans son parcours de vie, que ce soit au niveau privé, professionnel ou peu importe, rencontre quelqu'un qui ne va pas bien et qui souhaite l'aider.
Alors, est-ce qu'il y a des situations de suicide un peu plus élevées que d'autres? Quels sont les motifs de suicide les plus élevés?
Comme je vous disais, le suicide est multifactoriel et donc ça, c'est à répondre au cas par cas.
D'accord, il n'y a pas vraiment d'études par rapport à des secteurs, par rapport à des milieux?
Ah, alors oui, comme je vous dis, déjà dans la classe d'âge, on se rend compte que les 14-45 ans, c'est la première cause de décès chez eux, ça va être le suicide, donc on voit que c'est une catégorie d'âge plus à risque. Néanmoins, le suicide arrive à tout âge, chez les personnes âgées comme chez les plus jeunes aussi. Après, forcément, ici, si on va être face à une personne qui est parfois en situation de précarité ou qui vient de vivre un deuil compliqué, un divorce, un licenciement, enfin, c'est quelqu'un qui va accumuler différents facteurs, en fait, aussi. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Rappelez le site internet.
Le site internet, c'est www.1-pas.be, à Passe dans l'impasse.
Voilà. Merci, Élise. Et
merci.
Bon festival ici aux Solidarités.
Merci.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Alors nous, on continue notre petit périple dans le festival des Solidarités ici à Namur, sur le site Écolis. On va aller rencontrer une autre association, mais nous allons mettre un peu de musique pour pouvoir égayer notre petite journée qui est quand même assez difficile. On a parlé de la Palestine, on a parlé de Gaza, on a parlé de suicide. Et là, nous nous dirigeons vers une autre association où on va parler de crise économique pour tout ce tout ce qui se passe ici en Belgique. Alors, une petite pause musicale avec composition de Voix Solidaire, le label de Radio Solidarité.
La vérité perdue, ma vie et mes amis et ma gaieté. Les jours heureux sont oubliés, le rire s'est enfui loin de moi, sans bruit. J'ai perdu ma force et ma vie et mes amis et ma gaieté. Les jours heureux sont oubliés, le rire s'est enfui loin de moi, sans bruit. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Les illusions de l'esprit sont tombées démasquées en toute vérité. Quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Et quand je l'ai compris, senti, elle m'a laissé dégoûté. Quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Mais quand je l'ai compris, senti, elle m'a laissé dégoûté. Et pourtant elle est éternelle, les ignorants passent à côté. Dieu part, il faut qu'on réponde. Le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré. Les mensonges se sont effacés devant la clarté de sa voix. Mais ce qu'elle révèle en moi est un gouffre que je n'osais pas regarder. Quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Mais quand je l'ai compris, senti, elle m'a laissé dégoûté. Dans les larmes, j'ai trouvé un éclat de sincérité, un refuge, une humanité qui me rappelle ce que j'ai cherché. J'ai perdu ma force et ma vie, et mes amis et ma gaieté. Mais dans la vérité dénudée, j'ai trouvé un reflet de ma propre humanité. J'ai cru que c'était une amie, mais quand je l'ai compris, senti, elle m'a laissé dégoûté. Et pourtant elle est éternelle,
Les ignorants passent à côté. Dieu parle, il faut qu'on réponde. Le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré. Les mensonges se sont effacés devant la clarté de sa voix. Mais ce qu'elle révèle en moi est un gouffre que je n'osais pas regarder. Regarder. Redans d'avoir quelquefois pleuré. Les mensonges se sont effacés devant la clarté de sa voix. Mais ce qu'elle révèle en moi est un gouffre que je n'osais pas regarder. Que j'ai cherché. J'ai perdu ma force et ma vie, et mes amis et ma gaieté. Mais dans la vérité dénudée, j'ai trouvé un reflet de ma propre humanité.
Plus près, plus proche, sois solidaire avec nous, Radio Solidarité.
Si tu peux être. Voilà, nous continuons notre petit tour dans le village associatif. Alors, ici, nous sommes avec Charlène. Bonjour, Charlène.
Bonjour, Laurent.
Alors, ceci n'est pas une crise. Qu'est-ce qui n'est pas une crise et où sommes-nous ?
Alors ici, vous êtes sur le stand de la Fondation Ceci n'est pas une crise, avec ce nom un petit peu intriguant, voilà, qui fait beaucoup parler. Alors Ceci n'est pas une crise, en fait c'est une fondation qui a pour but en fait de voilà, délivrer des enquêtes, organiser des événements, faire toute une série de publications pour un petit peu éveiller les gens et conscience au fait que dans les médias, on aime bien nous dire ah, cette crise-là, voilà, la crise des migrants, la crise du Covid, les guerres, etc. On a l'impression que c'est des choses qui succèdent et qui n'ont pas de lien les unes avec les autres. Mais en réalité, tout ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Ceci n'est pas une crise. En fait, c'est vraiment une lame de fond qui traverse notre société. Et tous ces événements qui succèdent, en fait, ils nous appellent en fait à se poser des questions sur ces lames de fond qui traversent notre société, et notamment le fait qu'on a on subit un repli identitaire, qu'on doit réinventer les bases du vivre ensemble et vraiment aller vers un choix de société ouverte où les gens peuvent se parler et où il est possible de faire des grandes et des belles choses ensemble et de répondre aux défis sociétaux qui sont les nôtres, notamment écologiques, économiques, etc. Et cette fondation, elle est pluraliste en fait, elle n'a pas de base politique, mais elle délivre vraiment un message qui promeut le vivre ensemble.
Le vivre ensemble, la solidarité et de l'éducation permanente.
Complètement, de l'éducation permanente. Alors on a notamment, excusez-moi, hein, il y a plein d'animations sur le stand, ça bouge pas mal. En fait, elle vise à montrer aux personnes qu'il y a un repli identitaire. Il y a des gens qui se replient, qui ont peur des événements, qui ont tendance à se replier dans leur communauté ou dans leur famille, etc. Et puis il y en a d'autres qui sont plus confiants dans l'avenir et qui vont s'ouvrir. Et d'ailleurs, les extrêmes appellent les extrêmes et se nourrissent entre eux. On a notamment créé un petit fascicule qui explique ça très bien. On vous l'avait ici.
Avec des grands noms dans le fascicule.
Avec des grands noms. Alors, ce que j'allais dire tout à l'heure, la fondation, elle est pluraliste. Elle a été créée à l'initiative de Jean-Pascal Labille. Et elle, vous retrouvez dans les administrateurs des personnes comme Bruno Coleman, Pierre Kroll, qui d'ailleurs voilà, a trouvé le nom Ceci n'est pas une crise. Vous reconnaîtrez le petit côté piquant du caricaturiste. Et donc, toutes ces personnalités se sont dit il faut faire quelque chose, il faut le faire ensemble et il faut amener un autre message.
Alors, le message est dans votre livre qu'on peut trouver ici sur le stand, mais également sur votre site, par exemple.
Alors, vous pouvez le retrouver sur notre site. Tous nos outils pédagogiques sont sur notre site. On a aussi une page Facebook, une page Instagram. Et ici, bah, notre présence aux solidarités, c'est intéressant parce que ça nous permet d'aller toucher un public, très grand public, des enfants, des familles, et d'amener quelque chose d'un petit peu différent.
Alors, voilà. C'est quoi le site internet ?
Alors, le site de Ceci n'est pas une crise, c'est tout simplement Ceci n'est pas une crise, sans apostrophe ni rien, .be.
Donc, Ceci n'est pas une crise, .be. Voilà. Et on parle de toutes les crises
Alors, on ne parle pas des crises, on parle plutôt des mouvements de fond qui agitent ces crises et de ce qu'on peut faire ensemble pour aller justement vers un mieux.
Donc, si je comprends bien, la crise, elle n'existe pas. C'est l'être humain qui crée les crises avec des situations.
Ça, je dirais pas, mais notre manière de réagir à ces crises successives, elle nous amène vers des choix de société. Et à la Fondation, ceci n'est pas une crise. On croit que les choix de société, on peut avoir vraiment quelque chose d'actif.
Et... Ça bouge.
oui, ça bouge. Et de pouvoir se projeter dans l'avenir et être confiant. Et on le voit bien, en fait, les mécanismes qui amènent à la peur de l'autre, au repli, ils sont vraiment décryptables. Et d'ailleurs, on a sorti toute une série d'études, notamment l'étude de Noir, Jaune, Blues qui avait été très médiatisée. Ça, c'est la Fondation Ceci n'est pas une crise avec notre sociologue Benoît Scheuer qui l'a produite. Et notre dernière enquête qui est donc sur l'aspiration à la retribalisation et à côté de ça, le mouvement d'aspiration à la fondation de société ouverte explique ça, ce double mouvement et ces profils de personnes et la manière dont on peut agir pour... justement un petit peu renverser ces mouvements, en fait. Voilà.
Alors, on se donne rendez-vous aux solidarités pour les personnes qui ont déjà leur ticket. C'est
tout
complet.
À fait, on vous attend sur le stand. Voilà. Il y a pas mal d'animations, il y a une petite bibliothèque, on peut faire des badges. Vous avez une grande fresque avec plein de jeux pour tous les âges, des petites énigmes polysémiques, etc. Et puis sinon, on attend tout public qui voudrait rejoindre nos activités, soit sur notre site, soit sur la page Facebook, soit sur Instagram. Voilà, on est hyper ouvert à la discussion et on attend les personnes qui seraient intéressées.
Merci Charlène de l'accueil, merci de ces explications et merci de nous parler des
crises. De la Fondation Ceci n'est pas une crise, merci.
Voilà,
merci Laurent, bonne journée, bonne balade
merci
à vous, au revoir.
Oh, merci, au revoir. Alors nous terminons notre balade ici aux Solidarités à Namur. Alors moi je vous donne rendez-vous demain 14h sur Radio Solidarité, www.solidarité.tv, et nous allons ensemble repartir à la rencontre de nouvelles associations. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre. C'était Laurent en direct de Namur pour Radio Solidarité.